La vie éphémère est néanmoins un fait éternel dans une musique ininterrompue.
La philosophie est menacée de mort, le danger est extrême, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pourquoi je regrette déjà de vous en faire perdre. Du reste, la philosophie n'a pas à se justifier, donc il s'agit non pas de discuter, mais de lutter.
Prénom ?
Vladimir.
Nom ?
Jean Kalevitch.
Date de naissance ?
Bourges, le 31 août 1903.
Ses études ?
Normale supérieure avec au bout l'agrégation de philosophie rang premier.
Ses premiers postes ?
1927, l'Institut français de Prague. 1936, l'Université de Toulouse.
Et en 1940 ?
Révocation, après le statut des Juifs du régime de Vichy. Un arrachement pour Jean Kalevitch, qui reste à Toulouse et entre dans la résistance. Le pardon des Allemands, pour lui, est mort dans les camps de la mort. Il ne retournera à l'enseignement qu'en 1947.
Ses œuvres ?
Alors, deux versants, les livres de philosophie et de morale, le traité des vertus, la mort... Et l'autre, la musique qui ne parle que de la musique. L'un de ses éditeurs s'étonnera du succès d'un titre, le je ne sais quoi et le presque rien.
Et puis arrive la consécration.
La Sorbonne, 1952 jusqu'en 1979. Ses cours enchantent, il sera l'un des rares professeurs à ne pas être interrompu dans les amphithéâtres de mai 68. En 81, après la victoire de la gauche qui l'attendait, il passe de la réputation flatteuse à la célébrité embarrassante.
Et sa mort ?
Le 6 juin 1985. Une interview posthume paraît avant l'enterrement qui va quelque peu dégarnir les rangs au cimetière. Il y dénonce les docteurs de l'indétermination qui n'ont rien fait pendant l'occupation et ont ensuite passé leur vie à engager les autres à s'engager.
France Inter. Intelligence, service... Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
La durée, c'est le temps vécu et là où il a été vécu, dans la conscience. Une phrase de Bergson que Jean Kalevitch a rencontrée alors qu'il avait seulement 20 ans. Son premier livre lui sera consacré. Il l'écrit à Prague, où chaque moment compte double pour le jeune homme, longiligne, étincelant professeur à l'Institut français, brillant danseur dans les salons baroques de la ville et persuadé déjà que, lorsqu'on a quelque chose à vivre, il faut le vivre tout de suite. Et pareillement, lorsqu'on a quelque chose à dire, il faut le dire tout de suite. Être, c'est penser, vivre, aimer. Notre premier accompagnateur aux côtés de Vladimir l'Enchanté, l'enchanteur, sera Raphaël Antoven.
Pour parler le Jean Kalevitch, rien ne vaut un baiser à Prague. Il le dit quand il parle du « nevermore », le « plus jamais ». Était-ce à Prague, était-ce bien moi, ce baiser donné, cet unique baiser, où il entrevoit un monde possible et où ce monde se referme aussitôt, voilà, parce que toutes les histoires ne deviennent pas des histoires, tous les baisers ne deviennent pas des histoires. Mais enfin, il a avec ce baiser l'intuition que chaque instant en réalité, en somme, le travail du philosophe ou le travail de l'artiste, c'est de donner à chaque instant la qualité d'un premier dernier baiser. Et il est en cela vraiment simultanément un penseur tragique et joyeux à la fois. C'est comme l'homme dans la foule d'Édith Piaf, hein, voilà, elle se jette dans ses bras et puis soudain ils se séparent. C'est une tragédie microscopique dont l'ampleur ne tient pas à la dimension mais tient à l'émotion qui l'accompagne. Mais c'est une tragédie qui donne le jour à sa captation par la musique des mots.
Le baiser de Prague, la nostalgie de Prague l'habitera longtemps et avec elle celle du monde slave auquel il appartient par sa famille. L'attendent, retour en France, les meilleurs lycées et les facultés de province. À Toulouse, il aime se mêler aux étudiants pour écouter les cours de ses collègues. Il est si juvénile d'aspect qu'il n'est pas reconnu de suite et il s'en amuse. La vie pourrait être un jeu. L'odeur des glycines au printemps, un après-midi de soleil. Mais c'est la guerre. Blessé, démobilisé, Jankélévitch apprend qu'il est révoqué au nom du statut fait aux Juifs. Il choisit de rester à Toulouse, où il fera de la résistance. Toulouse, où Pétain est venu plus d'une fois, il scellant son alliance avec son symétrique, le caudillo franco.
Bien comprendre cette journée de Toulouse, cette réunion qui ce matin groupa tant de Français autour de la personne du maréchal. Il n'est pas besoin que je vous dise que la ville avait fait toilette, qu'elle se souvenait qu'il y a des mois, la première visite du maréchal au pays de France avait été pour elle, et qu'elle avait voulu faire mieux encore, et qu'elle...
Allô, allô, ici Radio Toulouse.
Les chemins de fer emmènent les ouvriers qui vont travailler en Allemagne.
Les chemins de fer emportent le butin que les Boches nous ont volé.
Les chemins de fer transportent les troupes et les munitions avec lesquelles l'Allemagne mène la lutte.
Tout ce qui désorganise les trains désorganise l'Allemagne.
Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer.
J'avais un camarade de classe qui s'appelait Job. Je ne sais pas comment il connaissait Jankélévitch. Et un jour, il m'a amené à Toulouse, dans un café sur la place du Capitole, pour écouter Jankélévitch. Et ça a été une révélation pour moi, parce que cet homme était d'abord très jeune. Deuxièmement, il était totalement tragique. Il était mince, il était beau, il était désemparé. Il était debout derrière une chaise et il nous parlait de la mort. Il en a parlé pendant des semaines. Je ne me souviens pas si c'était plusieurs fois par semaine que nous allions dans ce café de Toulouse ou seulement une fois par semaine. En tout cas, chaque fois, c'était une expérience extraordinaire parce que c'était un grand... Il était très éloquent. Le sujet était vraiment presque d'actualité étant donné les ravages que faisaient les Allemands. Et c'était absolument tragique de voir cet homme seul, réduit à une condition misérable, qui attendait qu'on passe une soucoupe avec des pièces de différentes dents pour pouvoir se nourrir le soir. C'était quelque chose de tragique. Et c'était aussi quelque chose de très beau, parce que ce qu'il disait était magnifique. Et il était terriblement blessé. Et donc, il refusait de prendre un pot, par exemple, ce genre de choses. Il s'en allait... Il était d'une tristesse épouvantable. Et il m'a laissé un souvenir impérissable. Après ça, je suis parti de Toulouse à la fin du dernier trimestre. C'était novembre 41.
Jean-Pierre Renoir qui sera déporté. En même temps qu'il s'engage, Jankélévitch fait ce qu'il faut pour protéger sa famille, qui s'élargit maintenant à un beau-frère, le grand conservateur d'art Jean Cassou, qui sera le commissaire de la République de Toulouse en 1944. Avec la libération, il a l'impression de quitter un souterrain pour retrouver la lumière. Il écarquille les yeux. Sa disposition à l'étonnement ne l'a donc pas quitté. Le comportement de l'université et de ses collègues, qui sont souvent restés dans l'ambiguïté pour poursuivre leur carrière, l'a rempli de colère et il ne se presse pas pour retrouver une chaire. Et musicien, autant que philosophe, on va le voir, il dirige un moment le programme musical de Radio Toulouse avant de retrouver un poste.
En 1951, Vladimir Jankélévitch est élu à la Sorbonne, où il restera plus d'un quart de siècle. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Lebrun, pourquoi chacun de ces cours est réputé unique?
Je peux raconter un souvenir personnel. 15 ans, je suis tombé sur Radio Sorbonne, ma mère est concierge, j'ai fait du repassage. Et nous écoutons ensemble, sans rien comprendre, enchantés, sans avoir de culture philosophique, tel ou tel de ces cours dont vous allez entendre un extrait. Oui, les esprits naturellement originaux, ils sont pas si fréquents chez les contemporains et Jankélévitch le paye d'une certaine solitude. Comment décrire ses cours? Il ne discute pas des théories des autres philosophes, il avance son argumentation propre, un peu comme le funambule avance sur son fil en guettant les réactions du public. Exemple d'un de ces moments de grâce que les étudiants pouvaient vivre dans le vieil amphi Descartes. C'est bien de dire l'heure, lundi, 16h, parce que le thème du cours est comme si souvent chez Jankélévitch, le temps. Le temps dont Saint-Augustin disait « J'entends un peu ce qu'il est quand je le vis, mais quand on me le demande, je suis incapable de le définir. Raphaël Antoven, toujours.
Saint Augustin dit « Ce que je sais, je ne le suis pas. Ce que je suis, je ne le sais plus. » Ou « Ce que je suis, je ne le sais pas. Ce que je sais, je ne le suis plus. » Jean Kelevitch reprend cette image en parlant du papillon. Le papillon tourne autour de la flamme, il veut sentir sa chaleur, mais s'il sent la chaleur, il ne sera plus qu'un paquet de cendres. Et donc, faut-il être sans savoir ou savoir sans être ? Savoir sans être, c'est regarder le feu à distance sans sentir sa chaleur. Être sans savoir, c'est sentir la chaleur au point de ne plus voir et d'en mourir. Et comment savoir et être en même temps ? Peu d'expérience ménage cela. La virtuosité, le ménage chez Jean Kelevitch, et surtout la naissance de soi, c'est-à-dire le fait d'agir sans y penser. Agir sans se dire qu'on est en train d'agir. Agir tout simplement à la façon dont lui-même enseignait.
Nous vous prions d'écouter le cours de Monsieur le professeur Vladimir Jean Kelevitch sur l'immédiat.
Le plan de notre recherche, je l'annonce tout de suite, d'une part l'immédiat dans le contact immédiat avec le réel et d'autre part l'immédiat dans l'ordre du temps. Ceci donc est encore plus frappant dans l'ordre du temps. Avec lui, on est aussitôt au bout. Donc, non seulement la pensée de l'immédiat ne nous donne rien à penser, et avec elle, nous mourrons d'inanition, et peut-être même nous courons le risque de nous endormir. C'est ce qui arrive quand on ne pense plus à rien. Craignez l'immédiat comme la positivité pure, comme il faut craindre le sommeil. Craignez le sommeil, la retombée dans le sommeil. Et en effet, il y a dans cette pensée du point fixe de l'immédiat, il y a un élément d'hypnose, si on peut dire. Il y a un élément d'hypnose dans l'idée d'une pensée médusée par ce point fixe de l'immédiat, qui est d'une part apporté à proximité directe de nous-mêmes, à tel point qu'il coïncide avec nous-mêmes, et d'autre part, qui s'offre à nous, sans discours, immédiatement, comme on dit cette fois au sens temporel, qui est donc à la fois la plus grande proximité dans l'ordre de l'espace, la plus grande proximité puisque finalement il est nous-mêmes, et d'autre part, la plus grande imminence dans l'ordre du temps, puisqu'il coïncide presque avec le présent. C'est dans la distance de ce presque, c'est-à-dire l'intervalle qui me sépare de l'instant et l'intervalle qui me sépare de ce qui n'est quand même pas moi, que réside la possibilité d'une intuition. Mais enfin, n'en disons pas trop aujourd'hui, parce que vraiment, je serai au bout de mon rouleau dès aujourd'hui.
Jean Kelevitch, dans ses cours, qui ne préparait rien, ses cours étaient savamment impréparés, il arrivait avec une feuille de papier à cigarette, et vraiment, enfin, c'était vraiment rien du tout, trois notes, et il partait, il décollait. Et en fait, Jean Kelevitch ne recherchait pas du tout un langage qui fût un langage commun. Son but était de suivre le fil de son instinct. C'est-à-dire d'obéir à deux nécessités. Un, chaque phrase, comme chaque pas précède un autre, la phrase suivante doit être requise par la précédente, mais en même temps, on ne sait pas où on va. Et cette double expérience fait que Jean Kelevitch, on a vraiment l'impression quand il parle, pas quand il écrit, mais quand il parle, que cet homme ne connaît du ciel que les étoiles filantes. Il va à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son, avec sa voix aiguë, et en fait, il emporte les individus plus qu'il ne les convainc. C'est ça qui est merveilleux, c'est que ce qu'il dit est parfaitement raisonnable, rationnel et sensé, mais en réalité, l'effet produit sur les gens qui l'écoutent est l'effet d'un charme. C'est un chaman, c'est un sorcier, dans son élocution, dans sa diction. C'était un professeur fascinant. Même les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui en convenaient, c'était un professeur fascinant, parce que il emportait tout le monde, et il ne demandait pas, pour qu'on soit emporté, pour qu'on fût emporté, d'une connaissance quelconque. Il suffisait de l'écouter. C'était de la musique.
C'était de la musique. Dans son appartement, à la proue de l'île de la Cité, un quai aux fleurs, qu'il a retrouvé après-guerre, Jean Kelevitch passe de son bureau à son piano et de son piano à son bureau. Le langage de la philosophie échouerait à coïncider précisément avec le temps, puisque ce que nous pensons de notre action la défigure nécessairement. Et le langage de la musique ? Alors Jean Kelevitch se garde de l'interroger techniquement, rien de la technique ne l'intéresse, il ne parle pas même de son instrument ou de ses nombreuses partitions, encore moins des disques dont on pourra entendre ici des extraits, mais qui sont pour lui des tombes. Il préfère déchiffrer lui-même, jouer peut-être gauchement, qu'écouter un micro-sillon parfait où nulle fausse note ne risquerait de se glisser. Alors nous jouons maintenant à quatre mains. avec un second accompagnateur, Bernard Sèvres, un philosophe lui aussi, qui, pour reprendre ses mots, a tenté d'écrire sur la musique.
D'un côté, la musique ne parle que de la musique, mais Jean Kalevitch n'aimait pas beaucoup la musique réflexive qui se prend elle-même pour objet et qui est trop intellectualiste d'une certaine façon. La musique, disait-il, ne parle de rien, mais elle dit l'ineffable. Elle approche l'ineffable. Et donc la musique est quand même orientée vers quelque chose qu'il appelle la générosité, qu'il appelle l'amour, qu'il appelle parfois Dieu même, mais assez rarement.
Alors c'est quelque chose d'ineffable, d'inexprimable. Il a écrit un livre qui s'appelle « Forêt et l'inexprimable ». Et c'est un presque rien que ne peuvent pas saisir ceux qui cherchent quelque chose.
Ceux qui cherchent quelque chose ne peuvent pas le saisir. Et c'est ceux qui ne cherchent rien qui trouveront.
Mazeppa a été lié nu sur le dos d'un cheval qui galope, galope vers les steppes d'Ukraine, une œuvre de Franz Liszt.
Mesdames, Messieurs, la virtuosité pour un homme de notre temps, c'est-à-dire le 1973, est avant tout une virtuosité romantique. Quand on pense aux virtuoses, on pense aux pianistes, et notamment aux pianistes de l'époque romantique, mais la virtuosité est un phénomène éternel qui a toujours existé en tout temps. Et d'ailleurs, la virtuosité est liée aussi à la puérilité, je m'en excuse, auprès des virtuoses qui sont ici, que je mets dans le corps des enfants, et peut-être n'en sont-ils pas fâchés, à l'enfance, et en effet, c'est à l'époque de la virtuosité que naît le mythe de l'enfant prodige, de Wunderkind, de l'enfant prodige que Liszt était, et Mozart aussi, mais notamment Liszt, puisque nous parlons des virtuoses romantiques. Et si je me rappelle bien, le titre de son premier recueil d'études transcendantes, celui de 1826, et qui n'avait du reste rien de transcendant, qui sont assez faciles, et porter le titre suivant, 48 études, 48 exercices, en fait, il n'y en a que 12. Mais comme il voyait grand, il les a multipliés par 4, n'est-ce pas ? Il n'y a que 12 exercices, qui sont 48 dans le titre, par le jeune Liszt, dans les tons majeurs et mineurs, par le jeune Liszt.
Le grand modèle pour lui, c'est Liszt. Il y a un rapport étroit entre improvisation et virtuosité. Pour Jean Kalevitch. La virtuosité, c'est la capacité non seulement technique à surmonter toutes les difficultés de l'instrument, bon, mais c'est aussi l'audace permettant de jouer une pièce écrite et difficile comme si on l'inventait.
Oui, mais enfin, il y a aussi une défiance vis-à-vis de la virtuosité.
Alors, il y a aussi
plus grande que vous ne le dites.
La défiance qu'il a, c'est devant la virtuosité purement mécanique. Avaler des notes, sans y mettre d'amour, d'âme et de soi-même. Alors cette virtuosité-là, il la condamne. Et il la condamne comme étant, complètement à côté de la musicalité de la musique.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun. Nous avons écouté un passage du cours de Jean Kalevitch. Comment inscrit-il la musique dans le temps ?
Comment dirait Debussy, dont il parle souvent ? C'est une île joyeuse, débarrassée du souci du sens, elle laisse surgir l'étonnement, puis l'étonnement de l'étonnement. Et c'est ainsi qu'elle s'inscrit dans le temps, puisque celui-ci est une mélodie ininterrompue. Bernard Sèvres, puis Raphaël Antoven.
Le temps de la musique, c'est le futur antérieur. La musique, dit-il, aura signifié quelque chose après coup. Le sens se forme au présent, donc quand la musique est en train d'être jouée, et se dégage au futur antérieur. Mais il n'est jamais, ce sens, chez l'artiste, concerté d'avance ou a priori. Ça, c'est la pensée jean-calévitchienne du temps musical. Le temps s'invente, chez le compositeur, et l'interprète qui, 10 ou 100 ans après, jouera cette pièce, devra faire comme s'il l'inventait. Mais le compositeur n'anticipe pas, ne décide pas, avance le sens, et c'est au futur antérieur. C'est un peu un concept bergsonien d'ailleurs, hein, l'idée du futur antérieur. Bon, c'est au futur antérieur que cette pièce aura été mélancolique. Mais en l'écrivant, le compositeur ne souhaitait pas qu'elle fût mélancolique.
Il est totalement proustien dans son rapport à la réminiscence. De toute façon, toute philosophie de la réminiscence, et je le dis même de celles qui précèdent Proust parfois de 2000 ans, sont proustiennes et proustiennes. Lorsque Platon parle de réminiscence, c'est-à-dire de l'éveil en soi d'un savoir dont on dispose déjà, il ne fait rien d'autre que l'émerveillement dont Proust, que Proust garantit à son lecteur quand il lui apprend à s'étonner de choses qu'il avait l'habitude de regarder. C'est la même chose, c'est le même discours. Et Jean Kelevitch est très exactement un philosophe de l'étonnement, c'est-à-dire que c'est un philosophe qui s'émerveille de ce qu'on a l'habitude de voir, trouve au cœur même de l'habitude la source d'un émerveillement renouvelé, d'un étonnement renouvelé, et cet étonnement-là n'est même pas soluble dans la résolution des questions qu'il suscite. Par exemple, pour le dire très simplement, Newton voit une pomme tomber, il choisit de s'en étonner alors qu'il voit ça tous les jours, et il trouve la solution. Et à partir de là, il s'en étonne plus. Jean Kelevitch voit une pomme tomber, et il s'en étonnerait, et puis une fois qu'on lui propose la solution, il s'étonnerait de la solution elle-même. C'est un philosophe, si vous voulez, de l'enfance perpétuellement renouvelée, de la candeur perpétuellement renouvelée, de l'étonnement perpétuellement renouvelé. Or, le trajet proustien est exactement celui-là. C'est-à-dire qu'ils ont l'un et l'autre, comme les bergsoniens, un mouvement en trois temps, qui n'est pas vraiment dialectique d'ailleurs, mais qui se fait en trois temps, qui est, un, nous rêvons, et le monde se présente à nous sous une forme déceptive. Deux, nous apprenons, nous nous cultivons, nous travaillons notre intelligence et nous essayons de comprendre ce qu'il en est. Trois, nous apprenons à être réenchantés par un monde qui nous avait d'abord déçus. Et en fait, c'est le passage de la naïveté à la candeur. La naïveté, c'est l'enfance de l'art. La candeur, c'est l'art de l'enfance. C'est la sagesse véritablement retrouvée. Jean Kelevitch, Proust, décrivent cette trajectoire où la plus haute sagesse est une candeur retrouvée.
Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise.
10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
François Mitterrand est élu président de la République.
Tiens, nous voilà en mai 1981, au passé simple ou bien à l'imparfait. Alors, candeur, étonnement, vieille fidélité, Jean Kelevitch est au rendez-vous de la place de la Bastille.
Nous voulons tous que ce pays change. Désormais, n'être pas seulement citoyen le dimanche quand on vote et sujet là où on travaille, mais voir la démocratie aller jusque sur le lieu du travail. La durée du travail sera réduite dans votre propre entreprise. C'est la semaine prochaine. Mitterrand président, c'est faux.
Vive le tonnerre, vive la pluie,
vive la France.
Et le tonnerre, vie avec nous.
Vous pouvez faire la fête malgré l'orage.
Ah bien sûr,
l'orage c'est rien par rapport à ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est absolument rien.
On peut faire remonter au Front populaire l'engagement à gauche de Jean Kelevitch. Après-guerre, il n'a pas fréquenté cependant ce qu'il appelait les néo-résistants du Café de Flore, ni flatté les communistes. En 68, il a pu sympathiser avec les étudiants de mai. L'imagination au pouvoir, c'est un slogan qui a pu lui plaire. La notoriété qui l'entoure dorénavant et les menaces qui planent dans les années 70 sur l'enseignement de la philo dans le secondaire l'ont fait devenir la figure de proue des états généraux de la philo qui se sont tenus à la fin du mandat Giscard dans le grand amphi de sa vieille Sorbonne. Pour lui, diminuer les heures de philo dans certaines terminales, c'est tarir à la source le recrutement des étudiants de philo dans le supérieur.
On m'entend bien ? Non ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ce n'est pas assez près, je pense.
Comme ça ? Vous entendez ? Oui ? Ce n'est pas un colloque académique sur les fonctions de la philosophie, la manière de la définir, c'est pas un débat platonique, nous n'en sommes plus là, quand la philosophie est menacée. Vous n'entendez rien. Et comme ça, la philosophie est menacée de mort, le danger est extrême, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pourquoi je regrette déjà de vous en faire perdre. D'ailleurs, pourquoi perdre son temps à justifier la philosophie devant la mauvaise foi qui lui refuse l'existence ? À quoi bon essayer de persuader ceux qui ne veulent pas être persuadés ? Donc, du reste, la philosophie n'a pas à se justifier. Nous allons donc aborder ce débat en parfaite bonne conscience et avec résolution, sans complexe, si je puis dire. Donc, il s'agit non pas de discuter, mais de lutter. Après tout, le combat pour la philosophie, c'est encore de la philosophie. On fait de la philosophie également dans les rues. C'est même l'originalité de la philosophie. Elle est faite pour ça, pour qu'on se batte pour elle. La philosophie, c'est pas un cadeau de Noël qui nous est donné tout ficelé dans son emballage, dans l'emballage des cadeaux, avec du papier rose. Mais il faut la conquérir, lutter pour elle, en toutes circonstances, contre les sarcasmes, contre les persiflages, et surtout contre les entreprises venues d'en haut qui visent purement et simplement à la détruire, à la faire disparaître, à l'assassiner, à l'exterminer. Nous avons choisi volontairement ce terme d'état généraux, c'est parce que dans les états généraux, on dépose des cahiers de doléances. C'est ça qui faisait les révolutionnaires. Nous sommes là, nous sommes en colère. Nous sommes tous très en colère.
En fait, il faudrait, selon lui, étendre l'enseignement de la philo en amont de la terminale pour aller à la rencontre des plus jeunes, des plus curieux, des plus ouverts. Des plus ouverts à quoi ? À l'étonnement et à sa fraîcheur. Raphaël Antoven.
Alors, il défendait l'enseignement de la philo, absolument. C'était un chevalier de l'enseignement de la philosophie. Et au-delà de ça, pas le temps d'entrer dans les détails, et en plus, pour le coup, ça demanderait une maîtrise biographique de son existence, que je n'ai pas. Je ne vais pas m'improviser spécialiste de la vie de Jean Kelevitch, que je ne suis pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Jean Kelevitch est l'artisan d'une façon de penser et d'une façon de parler qui permet d'étendre le domaine de l'expertise. Mais de l'étendre vraiment. Voilà quelqu'un qui étend le domaine de l'expertise parce qu'il est généreux et parce qu'il ne se soucie pas tant d'être bien compris, parce qu'il persuade autant qu'il convainc et parce qu'il séduit les gens pour les élever. Quand on pratique l'enseignement de cette façon-là, c'est-à-dire quand à la structure didactique d'un cours, on substitue un élan dont les individus doivent garder l'énergie plus que les feuilles mortes et les concepts qui en jaillissent, parce qu'il y en avait plein. Quand on pratique la philosophie de cette façon-là, il n'y a aucun inconvénient à en étendre l'enseignement en amont de la classe de terminale, par exemple. D'ailleurs, c'est intéressant. Les gens qui font de la philosophie un exercice didactique et un peu ennuyeux ont tendance à penser qu'en amont à moins de 18 ans, on n'est pas assez raisonnable, rationnel ou cultivé pour faire de la philosophie. Alors que d'une certaine manière, du point de vue de Jean Kelevitch, on l'est trop. C'est-à-dire que le terreau de la philosophie, de cette énergie-là, la candeur de l'enfance, l'ingénuité de l'enfance est un terreau plus propice à l'émerveillement philosophique. Il n'y a pas de jeunisme là-dedans, hein, c'est juste un constat. On peut être enfant à tous les âges. Mais enfin, le terreau de l'enfance est quand même un terrain plus propice à l'expansion de la pensée que le lieu des préjugés, des cours et des dogmes.
À la maison de la culture de Bourges, devant plus de 1000 personnes, Jean Kelevitch a fait un tabac. Vladimir Jean Kelevitch était accueilli la semaine dernière par la Maison de la Culture et la ville de Bourges, où il est né, et où son père, Simon Jean Kelevitch, le traducteur de Freud et de Hegel, avait exercé comme médecin. Les responsables de la Maison de la Culture avaient organisé une rencontre entre le philosophe et l'ensemble des élèves de terminale des lycées de la ville. On pouvait craindre que l'entreprise n'aboutît à un beau fiasco. Pensez donc. Contraindre les lycéens à philosopher en dehors des heures de cours. À 18h25, l'immense salle de théâtre de la Maison de la Culture était encore vide. Puis, en un coup d'œil, ils arrivaient par quart, elle était envahie par un flot d'élèves, quelques professeurs et beaucoup d'auditeurs libres. L'équipe d'Antenne 2 qui filmait était soulagée. Plus de 1000 personnes. Jankélévitch, timide, voûté, avait la gorge serrée, comme au début de chaque cours et depuis 60 ans. Mais devant le micro, il allait vite se libérer. Sa parole, d'abord calme et posée, devenait de plus en plus fiévreuse, s'enflait. Les lycéens, eux, étaient babas. Pas un bruit, pas un chahut. Ils écoutaient le philosophe parler de l'amour, du pardon, des nazis, de la philosophie.
Quand vous allez dans le magasin, au magasin de la morale, au magasin des concepts, que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme. Le rigorisme, j'en veux pas, ça fait mal. L'hédonisme, j'en veux bien, mais c'est la philosophie du plaisir, c'est suspect. Enfin, vous choisissez votre isme préféré. Quel est celui que vous préférez? La morale n'est pas un choix qui implique un pluriel. Parce que le pluriel, c'est-à-dire l'échantillonnage, a un caractère, parce que pluraliste, a un caractère esthétisant, n'est-ce pas? Une morale, j'en ai pas. La morale, c'est un savoir-faire, c'est le faire, c'est d'aller au secours de quelqu'un. C'est ça, la morale.
Je sais pas, il est très fort, moi. Il a 70-80 ans. Et puis il aime son truc, là il est vraiment amoureux de sa philo, de son idée, là, puis il en parle vraiment avec amour. C'est bien que nous on est en face, on soit ça, on soit la vieille pêche là.
Monsieur Lebrun, pouvez-vous nous donner des précisions sur le répertoire musical que joue Vladimir Jankélévitch et qui le met en joie?
Alors on a entendu ici Forêt dans les mélodies de Venise, mandoline, avec du chant. Il se méfie souvent du chant surimposé. Alors il écrit sur Forêt, il écrit sur Ravel, il écrit sur Debussy, mais enfin... La musique ne se résumerait-elle pas pour lui au piano? Parce que il goûte assez peu l'opéra, pas la polyphonie. Alors son domaine musical, dans l'espace et dans le temps, Bernard Sève.
Jankélévitch, dont je considère qu'il écrit des choses vraiment très très intéressantes sur la musique, avait un corpus d'œuvres musicales extrêmement étroit en réalité. Un spécialiste a même calculé que ça allait de 1825 à 1937. 1937, c'est la mort de Maurice Ravel, et 1825, j'ai oublié ce que c'était. Mais ces 112 années sont déjà une limitation temporelle tout à fait étroite, et au sein de ces 112 années, Jankélévitch ne prend pas tout, il ne prend que les musiciens français, russes, et ceux de la Mitteleuropa, de l'Europe centrale, qui ne sont pas germaniques. Un ou deux espagnols, aucun anglais, aucun allemand, aucun italien. Aucun autrichien, enfin voilà.
La musique française a quelque chose à voir avec la patrie française.
Une certaine musique française, Debussy, qui est mort juste après la guerre de 14, était un musicien très anti-allemand pendant la guerre de 14, ça c'est certain. Il paraît d'ailleurs que son trio pour flûte, harpe et alto était destiné à... Enfin, ce choix instrumental était fait pour ne pas reproduire le trio allemand typique et piano, violon, violoncelle. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est assez intéressant. Je ne pense pas que Jean Kalevitch ait de sympathie pour ça. Donc la musique française, dans ce qu'elle peut avoir d'un peu nationaliste, je ne pense pas du tout que Jean Kalevitch était attaché à ça. Non.
Par contre, il attribuait facilement à la musique allemande des caractéristiques nationalistes qu'elle n'avait pas nécessairement.
Oui, il a... voilà. Il a raté ce qu'il y a d'universel et d'universaliste dans la musique de Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui n'a pas été sensible à l'hymne à la joie de Beethoven, est quand même un peu curieux. Mais bon, on ne peut pas commenter ses silences. Mais son hostilité à l'Allemagne est allée très loin, puisqu'il s'est toujours refusé, il y a deux exceptions quand même, enfin dans ce que j'ai lu de lui, il s'est toujours refusé à dire Franz Liszt. Il disait François Liszt.
Hostilité à l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre. En revanche, être le gardien de la mémoire de ceux qui sont morts sous les coups des Allemands, ça le requiert. Le pardon est mort dans les camps de la mort, répète-t-il. Il l'a sans doute dit au lycéen de Bourges. À l'opposé, il faut demeurer fidèle à ceux dont le souvenir est entretenu, par exemple au Mont Valérien. Les résistants de toutes obédiences y sont honorés. Et chaque année, Jean Kalevitch s'y rend, se désolant que la plupart des Français considèrent ces cérémonies avec indifférence. Raphaël Antoven.
Quand cet homme-là descend du Mont Valérien et constate l'indifférence des gens qui peuvent vivre tranquillement leur indifférence grâce aux gens qui sont morts et à qui il vient de rendre hommage, le sentiment est double. Il est que, d'abord, ça n'est pas une maigre cause que de mourir pour que les gens aient légalement le droit d'être égoïstes. Ça n'est pas une maigre cause, ça n'est pas si peu que cela. Et le deuxième sentiment, c'est le fait que, en somme, on n'en a rien à foutre des gens qui sont morts, c'est pas nous. Donc, en somme... Et ça, c'est une passion très puissante chez Jean Kalevitch. On la retrouve notamment dans l'examen qu'il propose de la mort d'Ivan Illich, la nouvelle de Tolstoï. C'est une nouvelle qui fait 20 pages, où Ivan Illich décrit son martyr, où le martyr d'Ivan Illich est décrit de l'intérieur, par un narrateur, mais enfin, il est décrit de l'intérieur. Et le seul à entendre la douleur d'Ivan Illich, c'est Gerasim, qui l'accompagne, son domestique, alors que tout autour, les gens de sa famille n'ont plus tellement envie d'entendre parler des complaintes d'Ivan Illich, qui les saoule, avec ses... qui pue, qui vomit, qui fait du bruit. Lui qui se plaint, qui gémit, etc. Alors que lui vit une tragédie. Et le décalage entre le bon petit égoïsme des individus et l'agonie d'un homme qui est seul à comprendre ce qui est en train de lui arriver, ce décalage-là paraissait à Jean Kalevitch le seul motif littéraire qui vaille en réalité. La fonction première de la littérature, s'il fallait lui assigner un rôle, serait de nous rendre sensibles aux douleurs qui nous sont épargnées.
Jean Kalevitch a théorisé le caractère imprescriptible des génocides et des crimes contre l'humanité. À Bourges, on l'a entendu, il a parlé aux lycéens du pardon. Oui, mais alors, comment pardonner? Faudrait-il encore que celui qui demande pardon pour la forme soit dans l'insomnie?
Vous êtes trop jeune pour avoir vu la croix gammée sur la tour Eiffel. Ce sont donc des choses, quand on se les rappelle, parce que ce que la plupart des personnes qui sont là n'ont pas vu, c'est l'ennemi, n'est-ce pas, qui est dont les bottes martelaient les trottoirs. Je ne peux pas l'oublier, ça, quand même. Et tout ce qui s'en est suivi, les massacres qui s'en sont suivis. Alors je dis donc, non, je ne peux pas ne pas le dire. Ça, je le vois d'une manière éblouissante. C'est déjà une morale, parce que ça implique des conséquences pour moi. Des conséquences un peu symboliques, je l'avoue, qui sont des comportements inutiles, ne jamais mettre les pieds dans ce pays-là. De serrer le moins possible ces mains-là, pour prendre certaines précautions supplémentaires quand on doit me mettre en rapport avec des collègues étrangers. J'aurais bien savoir ce que c'est que ce collègue d'abord, n'est-ce pas ? Il m'a jamais dit un mot, une lettre d'excuse, un mot de misère, de compassion. Mais mes collègues, il paraît que j'ai des collègues en Allemagne. n'est-ce pas ? Il paraît, forcément j'en ai.
Forcément,
eh bien, vous me croirez si vous voulez, et probablement vous ne me croirez pas. Je n'ai jamais reçu une lettre, une petite lettre, une humble lettre, pour me dire combien il avait honte, ce monsieur, qui est professeur de morale, souvent. C'est leur, il paraît, c'est leur morale. Jamais une lettre. C'est pas parce que je suis vexé de ne pas avoir reçu une lettre. Je reçois que trop des lettres. Mais c'est parce que, un monsieur qui se prétend professeur de morale et qui enseigne les autres, je trouve que c'est profondément inquiétant, ça.
Cette déclaration au masque et la plume, en 1980, est parvenue à un professeur allemand, né en 1939, de parents qui avaient subi, sans y acquiescer vraiment, le nazisme. Ce professeur s'appelait Viard Ravling.
Cher monsieur Jankélévitch, ils ont tué 6 millions de juifs, mais ils dorment bien, ils mangent bien, et le marque se porte bien. Moi, je n'ai pas tué de juifs. Je suis tout à fait innocent des crimes nazis, mais cela ne me console guère. Je n'ai pas la conscience tranquille. J'ai une mauvaise conscience et j'éprouve un mélange de honte, de pitié, de résignation, de tristesse, d'incrédulité, de révolte. Je ne dors pas toujours bien. La mort est un maître venu d'Allemagne. Je me rappelle exactement la nuit où j'ai vu Nuit et brouillard. Quelqu'un m'avait signalé qu'on donnerait le film à la télévision. J'ai voulu le voir. Quand mes parents s'étaient couchés, je me suis relevé clandestinement, le cœur battant. Quand je suis passé devant leur porte, mon père ronflait comme d'habitude et ma mère dormait paisiblement sans doute. Et moi, j'ai allumé la télévision et j'ai mis le son tout bas pour ne déranger personne. Et je fus le témoin de cette nuit de l'humanité. Je vis ces montagnes de cadavres, ce mélange absurde et obscène de chair, de boue, d'os, d'excréments, de cheveux. Je vis ces cadavres entrelacés dans un commun destin, poussés dans le fossé par un bulldozer impassible, dans l'étreinte secouée par la mort. Et tout se passait sous les yeux impassibles de mes compatriotes en uniforme, qui, selon toute apparence, ne furent pas attendris même par le plus petit décor. Ces choses inanimées avaient été des êtres humains mis au monde par des mères, des êtres humains pleins d'espoir et de crainte, de joie et de tristesse, et pleins de talent. Combien de talent ! J'étais dans un âge impressionnable, qui n'a pas encore beaucoup de défense intellectuelle, qui n'a pas encore les callosités du cœur indispensables pour l'âge adulte. Et Dieu était mort, définitivement. Je n'ai jamais parlé de cette nuit à mes parents, ni à personne. C'est sans doute pourquoi elle ne m'a plus jamais relâché. La mort est un maître venu d'Allemagne.
Jankélévitch a répondu à cette longue lettre. Il a dit « Je ne vais tout de même pas aller vous voir en Allemagne comme vous me le proposez », mais il a ajouté « Venez quand vous voulez, un quai aux fleurs ». Et une longue correspondance a suivi sans que la querelle ne soit vraiment vidée. Jankélévitch n'a cessé de parler de la mort. Parler de la mort, c'est parler en creux de la vie. La vie, si fugace, si précaire soit-elle, est précieuse. Précaire, précieux, même étymologie. Et si la vie est un fait éphémère, le fait d'avoir eu une vie éphémère est un fait éternel. Et c'est pas une lapalissade. C'est ainsi que le silence prend un autre sens dans la musique, pour finir avec elle. On l'entend avant, pendant, après. Après un moment de vie, le silence devient recollectif. Dans cette évocation de Jean Kelevitch, maître de la parole, le silence aurait pu être le fil conducteur. Mais il n'est pas trop tard. Dans les enregistrements que nous faisons pour Intelligence Service, le technicien du son, ici Thibaut Nassim Ben, demande toujours aux interlocuteurs une minute de silence pour enregistrer l'ambiance sonore du moment.
La minute de silence, ça permet d'avoir une minute où on va enregistrer le son de la pièce, ce qui va nous permettre au moment du montage d'éviter des ruptures d'ambiance en fait.
Merci Thibault.
Chez Jean Kelevitch, évidemment, le silence n'est pas l'absence de bruit. C'est l'absence de parole. Et si la musique est un art du silence, il est très sensible à Bartok, par exemple, et à la façon qu'il avait de faire bruisser les feuilles, c'est que précisément le silence est l'écrin de tous les bruits qui sont ordinairement recouverts par le vacarme des bavards. Il dit souvent, il y a le disserteur se tait quand le chef d'orchestre prend la parole, quand le violoniste se saisit de son archet. Enfin, le silence arrive parce que, en somme, la fonction du bavardage, la fonction du langage, et il y aurait chez Jean Kelevitch implicitement d'ailleurs une théorie de la langue de bois à faire, la fonction du bavardage, la fonction du langage, c'est de recouvrir en permanence ce silence assourdissant que la musique ressuscite en se passant des mots.
Remerciements à Raphaël Anteven, à Bernard Sève, les lectures Grégoire Roqueplot, à la prise de son Thibault Nassim Ben, à la maison de la radio et de la musique Éric Boisset, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.